Le travail en collectif, j'y adhère totalement. C'est mon harmonie, finalement. C'est la dissolution de tous les égaux rassemblement. En une seule et même entité qui devient d'un coup très puissante et percutante.
Chantal Laureau.
Le cœur, c'est le titre du spectacle bluffant et jubilatoire que propose jusqu'au 15 janvier le Théâtre 14 à Paris. Ils sont 10 sur scène, ne formés qu'une seule entité, à 10 voix, 10 jeunes comédiens et comédiennes qui parlent, chuchotent, s'indignent, se confient, s'interpellent, se racontent, des récits qui fusent, se croisent, se répondent, des corps qui se plient, se déploient, dansent, s'enchaînent dans un même souffle, une même pulsation sur fond de musique techno, avec en filigrane une question. Comment la petite et la grande histoire se rencontrent-elles ? Bonjour Fanny Dechaillet.
Bonjour.
Vous êtes metteuse en scène, chorégraphe. C'est vous qui avez créé ce spectacle en septembre 2020 dans le cadre du Festival d'automne à Paris et qui le reprenez aujourd'hui en embarquant dans votre univers 10 talents du dispositif Adami Théâtre, talents dont vous faites partie. Malo Martin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté tous les deux notre invitation. Fanny Dechaillet, quand vous avez accepté le défi lancé par Adami, à savoir créer une pièce pour sa promotion 2020. Comment l'idée du cœur s'est-elle imposée à vous ?
Alors, pour ne pas mentir, j'ai eu beaucoup de chance. Il se trouve que j'avais eu cette idée avant. Je voulais travailler sur une forme chorale et la commande de l'Adami est arrivée. Donc, je me suis dit, c'est une aubaine, puisque le talent Adami, c'est un dispositif un peu spécifique qui demande à un artiste, à un metteur en scène tous les ans, de choisir 10 acteurs parmi de nombreuses candidatures. Moi, j'en ai eu à peu près 480, pour travailler, voilà, à mettre en avant ces jeunes talents. Et voilà, j'avais l'idée de ce cœur et la commande de l'Adami est arrivée. Je me suis dit, c'est l'occasion.
Alors, le point de départ du spectacle, c'est un poème de Pierre Alféri, avec qui vous avez l'habitude de travailler. Ce poème s'appelle « Et la rue ». Il est extrait du recueil « Divers chaos ». Pourquoi ce poème, cette écriture, vous ont-ils donné l'envie de bâtir autour un projet scénique ?
Ce que je trouvais intéressant, alors en dehors du fait qu'effectivement je travaille souvent avec Pierre, je n'avais pas vraiment pensé à lui au départ pour la forme chorale. Et puis il m'a offert ce recueil de poèmes. Et en lisant ce texte, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de raconter aujourd'hui sur scène avec des jeunes gens. C'est parce qu'ils sont plus jeunes que moi. Hein. C'est des gens qui ont entre 23 et 28 ans. Ils sont un peu plus vieux aujourd'hui. Et du coup, je me disais, c'est à partir de là que j'ai envie de les faire travailler. C'est-à-dire, c'est vraiment des poèmes sur ce qui se passait dans la rue à cette époque-là. Pierre a vraiment daté ses poèmes après chacune des manifestations auxquelles il a participé.
Donc c'est un poème avec une portée politique.
Hein. Exactement. Enfin, en tous les cas, alors c'est un poème, donc c'est pas quelque chose d'illustratif, mais ce sont des textes qui ont été écrits après des manifestations auxquelles il a participé, donc qui parlent de la rue, de ce qui s'y passe, etc. Et je trouvais ça intéressant de travailler avec ces jeunes gens sur cette question-là, en fait.
Le spectacle commence par l'évocation des attentats de New York contre le World Trade Center, un événement qui a marqué tout le monde, y compris vos acteurs, qui pourtant étaient enfants le 11 septembre 2001.
Ça commence. Je suis chez moi et c'était l'heure du déjeuner parce qu'il y avait des fois où je mangeais pas forcément à la cantine le midi. Et là, je vois un avion, mais littéralement s'encastré dans une tour. Et j'ai vraiment eu la sensation d'être à l'intérieur de ma télévision.
Moi aussi, j'ai vu ça, j'étais dans ma télévision et je regardais les dessins animés, enfin je cherchais les dessins animés, et sur toutes les fréquences, c'était les mêmes images qui tournaient en boucle.
Moi, papa avait installé un vidéoprojecteur sur la façade de la maison, en fait, et quand je suis rentré, je mangeais pas à la cantine non plus le midi. J'ai vu cet écran de 4 mètres sur 3, hyper impressionnant, quoi.
Moi, en fait, il y avait des télés dans toutes les pièces de ma maison. Du coup, à chaque fois que j'ouvrais les toilettes, la cuisine, la salle de bain, j'étais assaillie comme ça des images.
Moi, j'avais un grand écran qui descendait du plafond comme ça, et en plus, j'avais les lunettes 3D qui me permettaient de voir en relief.
Moi, mes parents possédaient un cinéma. Et j'avais mis
seul dans la salle, et pendant que je regardais le truc, il me secouait comme ça, il me donnait des baffes pour que je sente vraiment la puissance.
Mais nous, à l'école, on avait fait une minute de silence. Hein.
Ah ouais, nous, à notre école, je me rappelle, on avait fait 6 heures de silence. Sans rien dire.
En fait, j'ai dit minute, mais je voulais parler d'heure, et on l'a fait, je crois, 7 fois, donc ça fait un truc.
Bah ouais, mais en fait, on l'a fait toute la semaine. 6 fois 7.
Mais t'avais école le dimanche aussi, du coup?
Ouais.
Fanny de Chaillet, que dit-elle de nous, de notre société, cette première apparition du cœur?
Alors, en fait, quand je leur ai demandé d'improviser tous les jours, je leur demandais d'improviser sur la petite histoire qui rencontrait la grande histoire. C'est-à-dire que je leur ai posé vraiment cette question, de me raconter des histoires en disant quand est-ce que votre histoire intime a rencontré la grande histoire. Et à un moment donné, de ces répétitions, ils m'ont tous raconté cet événement-là, du 11 septembre, qui a été évidemment marquant pour tout le monde. Mais eux, ils étaient des enfants quand ils ont vu ces images-là. Je trouvais ça très compliqué d'aborder cette question-là sur scène, c'est-à-dire que c'est toujours un peu... qu'est-ce qu'on fait de ces événements-là et comment on en parle? Et ce qui me plaisait, c'est qu'ils en avaient un souvenir d'enfant. Ils ont vu que ces événements à travers les images, alors comme nous tous, hein, on pourrait se dire ça, sauf que eux, évidemment, ils n'ont pas du tout, comme ce sont des enfants, quand ils voient ces images, ils n'ont pas du tout le contexte global. Pour eux, New York, c'est rien, un attentat, c'est pas grand-chose. Enfin voilà, donc du coup, je me suis dit, peut-être il faut que je me remette à l'échelle de l'enfance pour pouvoir raconter cette histoire-là. Et donc, on a fait ces espèces d'impro qu'on a nommées entre nous surenchérir sur le drame. Parce que moi, j'ai vraiment des souvenirs très précis, et c'est ça que je leur racontais pendant les répétitions, mais peut-être tu pourras enchaîner, Malo, mais d'enfants où on jouait dans la cour comme ça, à se raconter des histoires de dingue, et plus et vraiment on s'appliquait à aller de plus en plus loin. Par exemple, je me souviens très bien de la sortie du clip de Michael Jackson, Thriller, et que dans la cour, on se racontait vraiment qu'on avait vraiment vu des vents vivants, qu'on pourrait plus jamais dormir de la nuit parce que nos parents nous avaient forcé à regarder ce clip. Enfin, on était vraiment prêts à aller loin dans le mensonge, quoi. Mais c'était une façon de communiquer en fait entre nous et vraiment on a joué beaucoup à ça parce que je me disais pour parler d'un événement comme celui-ci il n'y a qu'à cet endroit-là qu'on peut se situer, ça me semblait plus juste en tous les cas.
Malo Martin, elle vous a plu cette étape de l'improvisation là, pour répondre à la question que Fanny vous avait posée?
Oui. Et par rapport aux attentats du 11 septembre, moi je me souviens très bien que c'était le moment où j'ai compris que quelque chose d'exceptionnel arrivait à travers le regard des adultes. Et parce qu'il y a quelque chose où, quand c'est arrivé, j'étais suffisamment jeune et je ne me rendais pas exactement compte si c'était quelque chose qui arrivait régulièrement ou si c'était nouveau. Et c'est vraiment... c'est un événement marquant, d'abord par le regard des adultes que je voyais, où je me disais, ah là, il faut qu'on en parle, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Et...
Oui, c'est marrant.
Donc, il y a eu un consensus autour de ce choix du 11 septembre pour ouvrir le spectacle.
Ouais. Mmh.
Parce que autour de ce poème et la rue, il fallait greffer d'autres textes, justement, sur le vécu des 10 comédiens pour former une unité, en quelque sorte, Fanny?
Oui, alors, je ne me suis pas tellement posé la question de l'unité, parce que c'est par le travail physique et de corps qu'elle est apparue très tôt. En fait, je les ai fait beaucoup de danser. Les 15 premiers jours, on a fait quasiment que de la danse. Mais cette histoire de petite histoire, grande histoire, en tous les cas, je trouvais ça intéressant qu'ils puissent et raconter des histoires qui leur sont arrivées, mais aussi peut-être raconter des histoires qu'on leur avait racontées. C'était pas forcément leur histoire. En définitive, on a beaucoup gardé d'histoires qui étaient leur histoire, mais par exemple, Malo raconte une histoire qui n'est pas la sienne. Et c'était possible pour moi, en fait. Il n'y avait pas du tout de... Mais par contre, on jouait à ça tous les jours, à se raconter des histoires. J'ai l'impression que le théâtre, c'est aussi ça. C'est une façon de... Voilà, on est là pour se raconter des histoires.
Et pourquoi est-ce que vous vouliez que les acteurs ne soient pas tentés de briller individuellement?
Le danger de talent à Dami, c'est un peu ça. Mais c'est un danger autant pour eux que pour le metteur en scène. C'est-à-dire que ça pourrait être une succession de solos, par exemple. Et moi, je n'avais pas très envie que ce soit ça, même si on les voit tous, je crois. Mais en tous les cas, j'avais la sensation que se montrer aujourd'hui au théâtre, c'était peut-être faire cœur, ou en tous les cas, être suffisamment tranquille avec son ego pour être ensemble. Et que j'ai l'impression que si, et je leur disais, plus vous serez ensemble, plus on vous verra. Et je crois que ça a fonctionné quand même, en tous les cas.
Malo Martin, ça vous a étonné quand Fanny vous a demandé, je suppose, d'oublier vos égos?
Comment
non. Vous l'avez
J'ai
pris
pas dit ça.
Non,
J'ai
non.
pas dit ça.
Non, mais en fait, le travail du corps, le travail physique qu'elle nous a fait faire a été vraiment essentiel pour constituer un groupe et pour s'oublier au profit d'un groupe et pour vraiment constituer comme un corps commun, un cœur commun. Et ça, c'était assez nouveau pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on est principalement comédienne, comédien, plutôt dans le jeu, et plutôt que danseur. Et c'est vraiment par là qu'on a permis de se rencontrer aussi, parce qu'on ne se connaissait vraiment pas. Et constituer un spectacle sur le cœur, c'était d'abord constituer un groupe entre nous. Et ça, ça s'est fait beaucoup par le corps, par comment s'écouter, comment arrêter de se rentrer dedans, parce qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer ce genre d'exercice et de forme physique.
Donc ouais. C'est la danse qui a donné cette cohésion ouais. au groupe et aussi cette fluidité dans la façon de bouger.
Ouais, très concrètement, comme on avait 4 semaines pour faire ce projet, que je ne les connaissais pas, qu'ils ne se connaissaient pas entre eux et que je voulais faire un cœur, je me suis dit mais que vraiment, pour le fabriquer, il fallait se mettre ensemble dans le mouvement. Mmh. Mais c'est-à-dire apprendre concrètement à se porter, à respirer ensemble. Enfin, voilà. Et du coup, le texte est arrivé finalement assez tard, en fait. On a d'abord vraiment travaillé à se supporter vraiment concrètement. Donc
oui,
à
parce que c'est un spectacle très tactile.
Oui. Ils se touchent tout le temps, ils sont tout le temps ensemble. Et surtout, la parole de l'un ne peut pas avoir lieu sans l'accord des autres, en fait. Ils ont vraiment besoin d'être ensemble pour pouvoir jouer.
Les Français parlent aux Français.
Les gorilles, bananes, l'archevêque. Le Vatican doit faire avec. Et la Valkyrie nous tamponne, si l'on en croit Radio London. La girafe est dans les nuages, les yeux brouillés par le carnage. Le serpent nous tire les sonnettes, s'endort sous nos fenêtres. Ici Radio Londres, on est armé pour vous faire de l'ombre. Ici Radio Londres, en d'autres temps on était plus résistant. En d'autres temps on était plus résistant. Toujours sur Baker Street. Ce soir, Sherlock aura la frite. Sanglots de violon à l'automne. Si l'on en croit Radio London. Ici, Radio Londres. On est armé.
Ici Londres, le tout nouveau Axel Bauer dans De Vive Voix sur RFI, premier single de l'album attendu au printemps, un morceau qu'Axel Bauer a dédié à son père, Frank Bauer, qui était l'une des voix françaises de la résistance à Londres. Nous sommes toujours en compagnie de Fanny Dechaillé, metteuse en scène, et du comédien Malo Martin pour la pièce Le Cœur, qui se joue à Paris jusqu'à la fin de la semaine. Malo Martin, est-ce que vous aviez pratiqué la danse avant l'expérience du Cœur?
Oui, un petit peu. Non, mais dans les écoles de théâtre, il y a beaucoup de pratiques de danse, ou en tout cas de pratiques physiques. Donc j'avais déjà eu l'occasion de danser. Oui, voilà.
Ça dépend des écoles de théâtre quand même, tu as eu de la chance.
Ah ouais.
Alors ce qui est frappant dans le spectacle, c'est la vitesse, le rythme, tout s'enchaîne très vite. Les prises de parole individuelles ou collectives, les gestes. Comment avez-vous réussi à obtenir cette synchronisation, Fanny Dechaillé?
C'est du travail, beaucoup. Non, c'est vrai, on a beaucoup, beaucoup travaillé ça. Après, il est clair que ce travail sur le corps, qu'on a fait au tout début des répétitions, pardon, fait que j'ai fabriqué des matières avec eux à partir de consignes. C'est-à-dire que le premier confinement a fait que j'ai eu beaucoup le temps de préparer cette pièce, puisque tout s'est arrêté dans ma vie. Donc j'ai passé un mois dans ma chambre à écrire pour le chœur. Et du coup, je suis arrivée avec eux en répétition avec des espèces de consignes ou contraintes physiques pour un chœur. Donc on a beaucoup travaillé sur des choses, par exemple faire l'ombre de quelqu'un, faire la résonance d'une parole, etc. Donc plutôt des choses comme ça. Et au fur et à mesure, on a collé ces matières physiques aux histoires qu'ils me racontaient. Ça s'est vraiment fabriqué assez naturellement, en fait.
Et les silhouettes, par exemple, pour représenter une table ou une chaise ou un vase ou,
Alors ça, c'est un peu... Je me disais, on est 10, on n'a besoin de rien d'autre, en fait. Et je crois vraiment à ça. C'est-à-dire, je pense qu'on peut faire du théâtre avec rien, si ce n'est quand même ces 10 acteurs. Et du coup, comme j'avais besoin d'un décor, de nommer un intérieur, je me suis dit, on va le fabriquer nous-mêmes. Donc, effectivement, Valentine, qui est la narratrice du spectacle, cite les objets qui sont dans son appartement et les interprète un à un, fabrique avec leur corps les objets.
Et on y croit, hein.
Et on y croit.
On va écouter un autre extrait de cette pièce, Le Chœur. Martin, vous y racontez un souvenir de vacances plutôt surprenant et le groupe autour de vous a du mal à vous croire.
On est en 1970, j'ai 8 ans et je suis en colonie de vacances dans le sud de la France. Et c'est la nuit, je suis dans ma tente en train de dormir et là il y a les grandes de la colo qui viennent me réveiller parce que je m'entends super bien avec elles. Et en fait elles ont monté tout un plan pour qu'on se casse en douce de la colo et qu'on aille voir une vieille abbaye abandonnée qui est à côté du campement. Alors c'est ce qu'on fait, on part mais discrètement tu vois pour pas se faire griller par les monos. On arrive à l'abbaye abandonnée, et là, il y a un type qui est posé sur un muret avec une guitare et qui chante des chansons. Et il chante super bien, quoi. Alors, bah, nous, on se met en cercle comme ça autour du muret, puis on l'écoute chanter, jouer de la guitare, il joue super bien, c'est trop beau. On passe toute une partie de la nuit comme ça à l'écouter chanter, et on part juste au moment où le soleil se lève pour pas se faire griller par les monos. Et quelques temps plus tard, je suis chez mes parents, et sur un disque, je reconnais le gars qui jouait de la musique sur le muret. Alors je dis à ma mère, maman, lui je l'ai vu à la colo. Et elle me dit, bah non, elle sourit comme ça, elle me dit, non ma chérie, désolée, c'est pas possible, t'as pas pu voir John Lennon dans le sud de la France à ta colo. Moi je suis sûr de moi, alors je lui dis, si maman, ah je le reconnais, c'est lui avec ses petites lunettes là, c'est sûr, c'est lui. Et elle veut pas me croire, et elle rigole comme ça. Alors à l'école, je le raconte à mes copines, je leur dis, ouais, moi j'ai vu John Lennon dans le sud de la France, mais comme ma mère, elles veulent pas me croire, et elles rigolent comme ça. Et puis les années passent, et à chaque fois que je rencontre des gens, je leur raconte, je leur dis, ouais, moi j'ai vu John Lennon dans le sud de la France quand j'étais à une colo. Et les gens veulent pas me croire, à chaque fois c'est pareil, ils rigolent. Et puis les décennies passent et je le raconte de moins en moins, puis je le raconte plus du tout. Et on est en 2020, un repas d'anniversaire, et il y a quelqu'un qui ressort cette histoire, qui dit vas-y, raconte, tu sais, quand t'as vu John Lennon dans le sud de la France, vas-y, raconte. Et moi je veux pas raconter, tout le monde se marre, sauf les jeunes de la table. Ils dégainent des téléphones portables et regardent des articles en anglais, des biographies de John Lennon. Et à un moment, il y en a un qui se lève et qui dit vas-y. Bah si, c'est possible que Nelly, elle ait vu John Lennon en 1970 dans le sud de la France. Parce qu'à cette époque-là, bah, c'était la fin des Beatles. Et John Lennon, il n'allait pas bien du tout. Et il est allé à Antibes. Et il y a passé tout le mois de juillet.
Malo Martin, c'est un souvenir à vous ?
Non.
Non, vous l'avez pioché dans le...
Ouais, c'est un vrai souvenir.
Dans le pot commun des souvenirs ?
C'est une vraie histoire qui appartient à une amie de ma mère.
Ah.
Qui est tout... Tout est quasiment vrai, un petit peu transformé pour les besoins de la scène, mais sinon tout est vrai. Elle a vraiment vécu cette expérience de colo et de rencontrer John Lennon et d'avoir passé 50 ans à
tenter de persuader ses amis que c'était vrai.
Et voilà, et maintenant ça y est, elle a été vengée.
Fanny de Chaillet, cette cadence du spectacle, ce rythme, la vivacité, c'était aussi pour montrer que les jeunes ne sont pas amorphes, qu'ils ont des choses à dire et qu'on doit les écouter.
Mais alors ça, c'était vraiment même pas une volonté, mais enfin, il est clair que les jeunes ne sont pas amorphes et qu'ils ont plein de choses à raconter et qu'il s'agit juste de les écouter en fait.
Selon vous, est-ce que la pandémie du Covid, a mis à mal le sens du collectif ou pas ?
Alors... Nous, on a vraiment créé pendant, la pièce s'est créée pendant. Je dois dire qu'au contraire, pour nous, il y avait vraiment la nécessité de travailler. Le projet a été remis en cause à un moment donné. Et j'ai tenu, c'est-à-dire que je disais à la dame, mais il faut répéter. Quoi qu'il se passe, on doit répéter et on doit faire travailler ces jeunes gens. Voilà. Et du coup, comme on ne savait pas si on pourrait faire le spectacle pour la scène, on a en parallèle du spectacle fait un journal et une radio.
C'était votre plan B.
Exactement. Je me disais, si la forme ne peut pas avoir lieu sur scène, alors on va faire une radio et un journal. Et ça, ça a été très agréable parce qu'on a travaillé les trois formats en même temps. Du coup, tous les matins, on faisait ce qu'on appelait un comité de rédaction. Et on inventait des formes, soit pour la voix, soit pour la page, soit pour la scène. Et ça, c'était vraiment super. Au contraire, enfin, nous, en tous les cas, ça nous a beaucoup porté. Après, est-ce que ça va ruiner le... En tous les cas, c'est plus compliqué pour les jeunes gens de se rassembler, de se croiser. Enfin, moi, par exemple, la fermeture des facs, ça m'a complètement attristée, troublée. Enfin, j'ai pas bien compris cette chose-là. Je vois bien que là, je fais une autre pièce qui s'appelle « Les ordres du discours » d'après un texte de Michel Foucault et je joue exclusivement dans les facs et je vois la joie qu'ont les jeunes gens à se retrouver de nouveau dans les amphis. Enfin, donc oui, probablement, ça a été compliqué et il faut faire attention à ça, bien sûr.
Donc le cœur, est-ce que c'est votre réponse à cette crise que nous traversons et à peut-être cette tendance maintenant des gens à se protéger, à s'isoler les uns des autres ?
Eh bien, quand je l'ai envisagé, c'était avant la pandémie, donc ce serait un peu malin de dire qu'aujourd'hui, c'est ma réponse. C'est pas tout à fait vrai. Par contre, j'avais vraiment envie de, comment dire, pas de leur rendre hommage, mais en tous les cas, de m'intéresser à cette jeune génération, de l'entendre, de la mettre en scène, de montrer à quel point elle est forte, elle est belle, elle est convaincue, elle est exigeante, elle est sérieuse. Voilà.
Malo Martin, cette troupe est censée être éphémère. Est-ce que ça vous a donné envie, cette expérience avec le chœur, de poursuivre l'aventure du théâtre avec ce collectif, ou est-ce que chacun va repartir ensuite de son côté, voler de ses propres ailes ?
Ce serait difficile à dire. Après, il y a des belles amitiés qui se sont créées, ça c'est certain. Donc de toute façon, on ne va pas se perdre. Et puis, ce qui est sûr aussi, c'est que la vie de ce spectacle n'est pas du tout terminée. Donc on a encore le temps de voir venir ensemble. Et c'est pour le mieux, parce que c'est vraiment un groupe qui fonctionne. Et ce qui n'était pas évident dans un casting comme ça, à la base, on ne se connaissait pas et ça fonctionne très bien. Donc j'espère que ça va continuer.
Vous aussi, Fanny, vous avez envie de continuer une autre aventure peut-être avec ce même collectif maintenant ?
Moi, je les adore. J'ai vraiment déjà envie qu'on continue à bien jouer cette pièce. Je suis, on atteint des niveaux d'exigence un peu aigus. Mais donc voilà, on va continuer à tourner ça le plus longtemps possible en tous les cas.
Alors le chœur, c'est chaque soir au Théâtre 14 à Paris jusqu'au 15 janvier et les 10 et 11 mars au Théâtre de la Vignette à Montpellier. Un spectacle donc mis en scène par Fanny Dechaillet et interprété par 10 jeunes comédiens et comédiennes épatantes dont vous faites partie, Malo Martin. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Comme chaque mercredi, on retrouve maintenant la chronique de Lucie Bouteloup.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Chantal.
Quelle expression avez-vous choisie aujourd'hui ?
Alors, il y a parfois des programmes télé qui marquent tellement qu'on finit par s'approprier les expressions de ces acteurs, au point qu'elles finissent par rentrer dans le langage courant. Et puis le temps passe, le programme disparaît, mais l'expression, elle reste, et on ne sait plus trop à qui on la doit. C'est justement le cas de cette formule qui me plaît beaucoup, « tu peux te brosser Martine ». Alors pourquoi la brosse ? Pourquoi Martine ? Sylvie Brunet me dit tout dans la puce à l'oreille du jour, mais avant, la parole aux enfants.
Tu peux te brosser Martine, tu peux faire tout ce que tu veux, mais non, je vais pas faire ce que tu me demandes.
Martine, c'est comme les doigts dans le nez René, c'est aussi pour donner un truc humoristique dans la phrase, et continue à te brosser, rêve encore, quoi.
Mais en fait, c'est pas se laver avant, se frotter, ça doit être un truc que tu peux continuer de faire ta douche.
Moi, je sais pas pourquoi, ça m'a fait directement penser, genre, à brosser les poils d'un cheval avec le peigne. Peut-être parce que les chevaux, on les brosse dans leur écurie, et souvent, c'est là qu'ils font caca, et donc on n'aime pas et c'est comme si on disait tu peux le faire à ma place de brosser, ça pue trop, et l'autre il dit tu peux te brosser Martine, quoi. Jamais de la vie je le ferai pour le cheval.
Il y a un livre qui s'appelle Martine, c'est un livre pour enfants. Martine à la plage, Martine avec ses montgolfières, c'était assez cucu je trouve. Il a dit tu peux te brosser Martine, c'est peut-être ça.
Martine, moi il y en a une dans ma famille.
Alors Sylvie Brunet, moi cette expression « tu peux te brosser Martine », je l'avoue que c'est une expression que j'utilise et que j'aime énormément. Qu'est-ce qu'elle veut dire ?
C'est une façon d'envoyer purement et simplement promener quelqu'un en ne lui répondant pas sur ce qu'il est en train de vous demander et en l'évinçant et en ne recevant pas sa demande. Donc une façon de non recevoir.
Donc les enfants sont dans le vrai ?
Absolument, les enfants sont dans le vrai. Mais la plus ancienne attestation, c'est « tu peux te brosser le ventre ». C'est quand on disait à quelqu'un « tu mangeras pas ». tu peux te brosser le ventre, en quelque sorte, pour que ça te fasse comme s'il se passait quelque chose dans ton estomac, parce que tu n'auras rien à manger.
Alors, tu peux te brosser, Martine, cette expression, elle nous vient de la publicité.
De la publicité, absolument. Et c'est pour... on oublie très très vite les publicités. Bon, là, c'était une publicité, en l'occurrence, d'Étienne Châtilliez. Je pense qu'elle date de 2000, donc c'est pas très vieux. Mais ça tourne tellement vite qu'on oublie. D'autant que le produit en question qui était vanté à ce moment-là, c'était une barre chocolatée qui s'appelait Twix Top. Donc, n'a survécu que le Twix, mais le Twix Top, qui était un biscuit chocolaté, n'a pas survécu.
Eh bien, Sylvie Brunet, je vous propose qu'on l'écoute tout de suite, cette publicité.
Mais Josiane, comment fais-tu pour avoir des enfants aussi éclatants de propreté et de santé?
J'utilise Twix Top. C'est un nouveau goûter. L'excellent caramel et chocolat Twix me donne l'assurance d'un goûter qui leur plaît et sa forte teneur en biscuits la garantie d'une propreté éclatante.
Maman,
puis-je te l'emprunter? Tu peux te brosser, Martine.
Twix Top, le top des goûters.
Alors Sylvie Brunet, c'est donc à cette pub qu'on doit cette expression. Une expression, comme vous disiez tout à l'heure, qui en reprend une autre. Tu peux te brosser le ventre. Mais pourquoi avoir ajouté le prénom Martine? Qu'est-ce qu'il évoque? Pourtant, il n'y a pas de rime avec Martine.
Non, il n'y a aucune rime qui justifie la présence de notre Martine. Si ce n'est que quand même, les prénoms ont des connotations.
Un peu péjoratives, là.
Et en l'occurrence, c'est péjoratif. Puisque Martine s'est incarnée à ce moment-là, d'après les costumes qu'on voit justement, qui sont portés par les deux femmes. L'autre qui donne de la barre chocolatée à ses enfants, elle a une veste, elle est bien habillée, etc. Elle incarne la bourgeoise et la Martine, elle a un petit pull, un petit peu moche, etc. On ne voit même pas ses enfants de toute façon, elle carrément. Et elle incarne la femme du peuple justement. Donc c'est dans ce sens-là qu'on avait retenu le prénom de Martine.
Donc la pauvre Martine, elle peut toujours rêver, elle n'aura pas la barre chocolatée. Donc tu peux te brosser Martine, tu peux toujours rêver. Alors des expressions comme ça qui nous viennent de la télévision, on en retrouve plein dans votre livre. C'est le cas notamment de « C'est le jeu, ma pauvre Lucette ».
Ah oui, ça aussi, c'était une publicité qui a eu beaucoup de succès. Et c'était une publicité pour le loto. Et c'était effectivement deux heureux gagnants du loto. Lucette était dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Et pendant ce temps-là, son mari posait le doigt sur le globe terrestre et disait « Ah, je suis tombée sur l'Australie ». Et on entendait dans la cuisine Lucette dire « Oh non, pas encore l'Australie ». Et lui, il répondait « C'est le jeu, ma pauvre Lucette ».
Il y a aussi Tout à fait Thierry.
Qui en fait vient des deux commentateurs sportifs, Michel Larquet et... Non.
Thierry Roland et Michel Larquet.
Roland et Michel Larquet. J'ai pas regardé assez de matchs, je crois. Et puis, qui a été surtout repris pour un sketch des Inconnus. Et à ce moment-là, à la fin des années 90, bon, c'est devenu une expression que tout le monde employait, ce tout à fait Thierry. C'était une façon de donner son assentiment, son accord, d'approuver ce que disait l'autre, c'est tout.
Merci Sylvie Brunet d'être venue nous amuser avec toutes ces expressions. Les puces avec vous, c'est toujours formidable. Et c'est pas la mère Denis qui va nous dire le contraire.
Ça, c'est vrai, ça.
Ça, c'est pas vrai.
Je rappelle aux auditeurs que vous venez de faire paraître ou reparaître 300 expressions qui jouent avec nos prénoms et que c'est paru aux éditions de L'Opportun. Sans excusez-moi, je crois que la mère Denis a un dernier petit message pour tous nos auditeurs.
La mère Denis vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de bonheur à tous. Bonne année.
Bonne année Sylvie Brunet.
Merci, bonne année à vous aussi.
Merci Lucie, à mercredi prochain. Fanny Dechaillet, vous connaissiez l'expression « tu peux te brosser Martine » ?
Je l'avais entendue, mais alors loin de moi, toutes ces significations qui y sont accolées.
Et vous Malo Martin, je vous ai vu réagir au moment de la pub, pub Twix Top.
Ouais, elle m'est revenue en l'entendant, j'avais 9 ans je pense à cette époque-là.
Moi j'avais déjà plus de télé. C'est là, on voit. On n'a pas tout à fait le même âge.
Alors, De Vive Voix touche à sa fin. Merci encore à vous, Fanny Dechaillet et Malo Martin. Merci à Cécile Lavolo à la programmation et à Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain et portez-vous bien.